Bonsoir à toutes et à tous, 21h passées de quelques secondes sur Radion, c'est le moment de retrouver Wagon Livre, votre émission littéraire. La semaine dernière, nous vous avons proposé une première partie du compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun. Eh bien, aujourd'hui, 3 mai, nous vous en proposons la suite avec d'autres reportages et interviews enregistrés lors de cette 20e fête du livre d'Autun. C'était les 8 et 9 avril derniers. La fête du livre d'Autun, qui fêtait donc ses 20 ans, qui a été créée à l'initiative de quelques passionnés de lecture en 1998, et elle est organisée par l'association Lire en Pays Autunois, une soixantaine d'adhérents, tous bénévoles qui s'impliquent finalement depuis 20 ans pour la promotion du livre et de la lecture en direction de tous les publics. Plus de 120 auteurs, une dizaine d'éditeurs et des invités de renom se déplacent chaque année pour assister à cet événement littéraire majeur en Bourgogne. 10 000 visiteurs sur les deux jours et Autun et sa salle de l'Hexagone devient, le temps d'un week-end, la plus grande librairie de Bourgogne. On rappellera qu'en 2016, c'est 4000 livres qui ont été vendus à la fête du livre d'Autun. Alors au programme ce soir dans Wagon Livre, nous allons vous faire entendre le chanteur Marcel Amon qui était présent à cette 20e fête du livre d'Autun, notamment dans le cadre de l'association Alphonse Allais, l'Académie Alphonse Allais plus précisément. Vous entendrez également un entretien avec le président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, et puis Paul Bertrand, une auteure bourguignonne qui signe deux romans, dont Les Sycophantes et des contes de terroir, très ancrés dans le pays de Liernais et de Saulieu, sera à notre micro ce soir. Mais on ouvre ce numéro de Wagon Livre avec celui qui est l'auteur de Mozart pour les nuls aux éditions First. Il est journaliste à Europe 1 et c'est Thierry Geoffrotin.
Cette collection est passionnante. À la fois, j'allais dire, pour les auteurs et pour les lecteurs. Pour les auteurs, elle est passionnante parce que chaque livre de cette collection, et on sait que maintenant, il y en a beaucoup, hein, La psychologie pour les nuls, La renaissance pour les nuls, qui vient de paraître, Mozart pour les nuls, est organisé de la même manière. C'est-à-dire que c'est très sérieux dans la construction. À la fin, vous avez toujours ce qu'on appelle la partie des 10. Alors, par exemple, dans Mozart, vous avez les 10 villes qui sont chères à Mozart. Moi, j'ai choisi les 10 grands interprètes de Don Giovanni, les 10 grands interprètes de La Reine de la Nuit, les 10 œuvres que je conseille. Et c'est très, très bien structuré. C'est-à-dire que l'auteur, il est pris en main par la collection, par l'éditeur, et il se glisse dans ce moule qui est très bien fait. C'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est un boulevard et une autoroute, parce qu'il faut beaucoup travailler derrière. Mais c'est rassurant. Parce qu'on est, cadré, on est accompagné. Et pour le lecteur aussi, c'est passionnant parce que c'est une collection qui à la fois s'adresse à ceux qui ne connaissent pas, on les appelle les nuls, moi je dirais les curieux, ceux qui veulent en savoir plus, mais, et là j'en reviens à l'éditeur, il est très exigeant, c'est-à-dire qu'on fait passer à la petite semaine en racontant vaguement trois anecdotes autour de Mozart en l'occurrence. Vraiment, l'éditeur attend de l'auteur qu'il donne le meilleur de lui et que ça soit l'ouvrage d'une certaine manière de référence. Et pour le lecteur, il sait qu'en achetant un livre de cette collection, il y a un niveau de qualité et en même temps, il y a une facilité de lecture parce qu'on n'est pas dans un ouvrage universitaire, on est là pour vulgariser dans le bon sens du terme. Et je pense que, je vous le redis, à la fois pour l'auteur que je suis et le lecteur, c'est une belle collection. En l'occurrence, en plus, le format est un peu plus petit que les habituels pour les nuls, c'est-à-dire que pour les dames, il se met dans un sac à main. Pour les hommes, il se prend à la main. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Moi-même, qui connais assez bien Mozart, mais on n'a jamais fini d'en découvrir sur Mozart, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et là, à l'occasion de ce salon, évidemment, je l'ouvre à nouveau, je le relis, Je me dis que j'ai beaucoup bossé d'ailleurs, il y a des choses que j'avais un peu oubliées. Et j'avoue que c'est toujours un plaisir de parler de Mozart, bien sûr, et de parler de ce livre. Et au-delà de tout ça, d'écouter Mozart.
Alors Thierry, quelques petites anecdotes savoureuses, croustillantes ou coquines à propos de Mozart. Est-ce que c'est un homme qui n'a vécu que pour sa musique? Est-ce qu'il a eu une vie amoureuse?
Alors, quand vous dites coquine croustillante, je pense que vous pensez un peu au film de Miloš Forman qui s'appelle Amadeus, qui est un très beau film. Voilà, qui est un très beau film.
Qui est fiable?
Pas tout à fait. Il y a des inexactitudes, il y a des. Mais c'est un film, c'est un point de vue et c'est un très beau film. Et je pense que c'est une belle porte d'entrée d'ailleurs pour entrer dans l'univers de Mozart. Alors, une anecdote parmi d'autres. Alors, qu'est-ce que je vais vous trouver comme anecdote? Bien, par exemple, il y a un grand moment de la vie de Mozart. C'est lorsqu'il décide de quitter son employeur, l'archevêque Colloredo. C'est l'archevêque de Salzbourg, c'est le patron de Mozart. Et l'histoire nous dit que Mozart a démissionné. Alors, c'est partiellement vrai parce qu'en fait, à l'époque où ça se passe, c'est-à-dire au début des années 1780, quand on s'appelle Mozart, on a beau être un génie musical, on est quand même un employé. Et quand on est employé à la fin du XVIIIe siècle, on ne peut pas démissionner. Alors Mozart s'est fait virer, ça c'est vrai, avec un coup de pied au cul du maître des cuisines. Alors aujourd'hui, on dirait que c'était le DRH de l'archevêque de Salzbourg. Mais il n'a pas démissionné. On ne pouvait pas. Alors évidemment, on voit ça avec toutes nos références du XXIe siècle. Mais en 1782, quand Mozart quitte cet emploi à Salzbourg pour partir à Vienne comme musicien indépendant, eh bien, il est viré avec un coup de pied au cul qui est resté assez célèbre dans l'histoire.
Alors, on sait que c'était un prodige. Est-il vrai qu'il était attaché à un banc devant un piano? Légende, excès, interprétation erronée de l'histoire?
Oui. Non. Alors, je pense que son papa, Léopold, a eu très vite la conscience que son fils était quelqu'un d'assez extraordinaire. Alors, il y a, je pense, sinon des explications, en tout cas des données. Déjà, papa est musicien professionnel, hein, son père est violoniste, très bon violoniste, puisqu'il a écrit une méthode d'enseignement du violon que l'on utilisait longtemps après la mort de Léopold, au 19e siècle, et même au début du 20e siècle, la méthode d'enseignement de violon de Léopold, elle est utilisée dans les écoles, et notamment en France. Donc, son papa joue du violon, il est compositeur, et Mozart a une sœur qui a 5 ans de plus que lui. Et ça, c'est très important parce que vous voyez, quand il y a un petit garçon de 3 ans et que sa sœur a 8 ans, il la voit, il veut faire comme elle, il veut la copier, l'imiter, il veut être grand, quoi. Et sa sœur à 8 ans, c'est déjà une très bonne claveciniste. Et quand Mozart se met devant un instrument à l'âge de 3 ans, eh ben, en fait, il ne fait que reproduire un petit peu ce qu'il voit autour de lui, son papa, sa sœur. Alors, attaché, non. Je pense que le père, Léopold, il a eu conscience que son fils était... Il n'a sans doute pas pensé à un génie au début, mais qu'il avait des dispositions pour la musique et il l'a beaucoup fait travailler. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet. La vie de Mozart s'organise autour de la musique. Mais pour lui, ce n'est pas du tout une punition. C'est-à-dire que quand il compose de la musique, il est heureux. D'ailleurs, il aime qu'on lui dise « Aimez-moi et je vous ferai de la musique ». Mozart est quelqu'un, Amadeus, hein, aimé de Dieu. Il y a une espèce de grâce autour de lui. Et c'est vrai que la musique, c'est son pain quotidien. Ça fait partie de sa vie. Alors parfois, c'est dans des conditions difficiles. Parfois, ce sont des commandes. Mais souvent, il arrive que Mozart écrive une pièce pour faire un cadeau à sa sœur, puisque je parlais de sa sœur, pour son 25e anniversaire. Mozart a donc 20 ans. Il lui offre un cadeau qui est une œuvre qui est aujourd'hui très connue, d'ailleurs. Et ce n'est pas le seul. Il a aussi des amis musiciens quand il est à Salzbourg et il leur fait des cadeaux. Donc, la musique, c'est son oxygène, c'est sa vie, tout simplement. Et jusqu'au bout, quand vous disiez attaché à la musique, oui, je pense que si on avait la plus grande punition qu'on aurait pu faire à Mozart, c'est de l'empêcher de composer, de toucher un instrument ou de chanter. C'est tout simplement, c'est sa vie.
Alors, un petit mot sur la fin de Mozart. On sait qu'il a composé le Requiem dans une période extrêmement troublée, enfin personnellement très troublée, où il pensait même avoir perdu l'inspiration.
Alors, en 1791, Mozart est très sollicité, en fait. Il écrit beaucoup, beaucoup de musique et beaucoup de chefs-d'œuvre. Il écrit La Flûte Enchantée, qui est vraiment un des sommets de sa musique. Il écrit le concerto pour clarinette. dont on connaît aujourd'hui au moins le deuxième mouvement depuis le film Out of Africa, qui était une splendeur. Il écrit un opéra qui est la Clémence de Titus. Il écrit aussi une partie du Requiem, qui est une commande qui lui est passée. Et au milieu de cette espèce de musique qui vient de partout, soit qu'il décide de l'écrire, soit que ça soit une commande comme le Requiem, il y a en effet cette œuvre sur laquelle il travaille, qui vient en plus de tout ce qu'il doit écrire. Et il meurt avant d'avoir terminé ce Requiem. Alors pour nous, ça participe aussi de la légende de Mozart, qui meurt alors qu'il n'a pas 36 ans, qui meurt en écrivant un Requiem. Donc c'est une messe des morts. Alors on se dit, oh là là, est-ce qu'il n'était pas un peu conscient de tout ça, et il meurt sans l'avoir achevé. Sur la mort, on ne sait pas exactement de quoi il est mort. Il y a plusieurs centaines de théories différentes. Ce qui est vrai, c'est qu'il meurt à 36 ans, ce qui est quand même extrêmement jeune. Imaginez s'il avait vécu 30 ans de plus. Il est mort en 1791. S'il avait vécu 30 ans de plus, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 65 ans, ça nous met en 1821. Comme il est à Vienne, il aurait rencontré Schubert, il aurait vu Beethoven composer la plupart de ses symphonies. On se dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous aurait offert comme musique? Et ça, on ne le saura jamais.
À l'instant sur Radio, c'était Thierry Geoffrotin pour son Mozart pour les nuls, disponible en librairie aux éditions First. Si vous le voulez bien, et bien avant de continuer ce compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 8 et 9 avril dernier, nous allons marquer une petite pause musicale et je vous donne rendez-vous dans une poignée de minutes. Bonne soirée sur Radio, c'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
La nuit est chaude. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Merci de nous recevoir chez vous. C'est votre émission littéraire sur Radion comme chaque mercredi et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, compte rendu de la 20e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 8 et 9 avril dernier. Je vous l'avais annoncé en début d'émission, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec celui qui est actuellement président de la Ligue de protection des oiseaux. Vous le connaissez, journaliste à la télévision, notamment surtout à l'époque d'Antenne 2 où il animait Animalia, défenseur des animaux, infatigable défenseur de la protection des oiseaux. Il est d'ailleurs président de la Ligue de protection des oiseaux. Tout de suite, Alain Bougrain-Dubourg qui était présent donc le 9 avril. Avril dernier, à la 20e fête du livre d'Autun.
Bonjour, je suis Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux et en l'occurrence auteur d'un livre, Il faut continuer de marcher, qui est mon histoire.
Voilà. Alors, ce sont vos mémoires aux éditions de La Martinière. Vous êtes présent à cette 20e fête du livre d'Autun. Vous étiez déjà venu à Autun ?
Oh, c'est une ville qui me touche. J'étais venu déjà avec Pierre Arditi, je me souviens, mais surtout mon papa s'est marié pendant la guerre sous un faux nom avec ma maman à Autun. Ils étaient recherchés par la Gestapo et au lendemain de la guerre, mon papa était le plus jeune député de France de Saône-et-Loire. Voilà, donc j'ai des racines dans cette région et je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur. C'est un vrai plaisir de se retrouver avec des auteurs et surtout des lecteurs dans un cadre pareil.
Vous êtes le fils d'un grand résistant. Je passe un peu l'épisode Brigitte Bardot. Elle a failli devenir votre femme.
Oui, c'est exact. Je le raconte dans l'histoire. Ouais, ouais. Mais on continue de se parler et de s'appeler périodiquement parce qu'on est unis par une passion commune, la défense des animaux.
Alors, vous êtes un infatigable défenseur de la cause animale qui progresse considérablement tout de même.
Oui, très lentement, mais quand on voit la souffrance qu'il y a à la clé, on se demande comment on ne peut pas avoir une prise de conscience plus rapide. Et je vois que pour la première fois dans ces élections présidentielles, certains candidats commencent à ne pas rougir, de dire qu'on doit se comporter décemment à l'égard de l'animal. Et il y a par exemple des méthodes d'élevage comme les poules en batterie, les poules pondeuses, dont on voit que les citoyens et surtout les consommateurs refusent ce type de production puisque ça risque d'être arrêté d'ici 2025-2030 au maximum, tout simplement parce que les consommateurs disent on ne peut plus garder des animaux dans un conditionnement pareil et voilà, et on devrait avoir le même regard sur les porcs et sur bien d'autres productions. Je ne suis pas végétarien, mais je crois qu'on doit avoir à l'égard de l'animal un minimum de décence, de respect. La souffrance est douloureuse, elle l'est pour l'homme, elle l'est aussi pour l'animal.
Sujet incontournable, puisque j'ai le président de la Ligue de protection des oiseaux. Alors, qu'en est-il du sort des oiseaux ? Alors, c'est les oiseaux, c'est pas les oiseaux domestiques que vous défendez le plus, bien sûr.
Alors, c'est très intéressant de savoir comment se portent les oiseaux, dans la mesure où, scientifiquement, on considère que ce sont les indicateurs de l'ensemble de la biodiversité. Quand les populations d'oiseaux sont en bon état, on sait que toute la chaîne du vivant est également en bon état. Alors maintenant, je réponds à votre question. C'est dramatique. Il y a un déclin, notamment des oiseaux de proximité. Ceux qu'on a toujours un peu méprisés, on n'a pas tenu compte. On s'est intéressé aux oiseaux emblématiques, la cigogne blanche. Il y a 30 ans, il restait moins de 10 couples. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000 couples. Les vautours qui avaient disparu, etc. Or, on ne s'est pas intéressé à l'alouette, à la mésange et à tous ces oiseaux-là. Et on se rend compte que, notamment avec l'agriculture industrielle extrêmement violente, faisant appel à des intrants, des pesticides et autres, eh bien, il y a un impact grave sur les populations d'oiseaux.
Alors, Alain Bougrain-Dubourg, je reviens sur le titre de vos mémoires aux éditions de La Martinière, « Il faut continuer de marcher ». C'est un clin d'œil très fort à un homme qui vous a marqué. J'aimerais que vous nous expliquiez d'où vient ce titre.
L'homme en question, c'était Théodore Monod, que j'adorais, qui m'a accompagné dans mes combats. Il a toujours été présent, notamment contre le braconnage des tourterelles dans le Médoc ou les ortolans, etc. Et Théodore, j'ai été le voir alors qu'il était en train de vivre ses derniers instants. Il était à l'hôpital. Il n'avait plus la force de s'exprimer et je lui parlais beaucoup et il me serrait le bras en guise d'acquiescement. Et à la fin, dans un dernier souffle, il m'a dit « Alain, il faut continuer de marcher ». Et c'était pas « il faut continuer de se battre ». Cet homme qui avait tant traversé le désert, qui avait tant marché dans sa vie, il m'invitait à continuer de marcher et j'ai repris ce titre pour mon ouvrage.
Alors, est-ce que vous avez eu vous-même votre propre traversée du désert ?
Oui, bien sûr, je crois qu'on a tous des moments de haut et de bas. J'ai eu un moment où la télévision s'est arrêtée parce qu'il y a eu une pression très forte des chasseurs et qu'un président de France Télévisions a dit on arrête Bougrain-du-Bourg, on le considère comme anti-chasse, etc. Ce qui n'était pas vrai parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec certains chasseurs qui étaient responsables, mais je me battais contre les abus de la chasse. Et donc là, ça a été assez douloureux. Vous savez, les gens vous disaient « Ah, vous faites plus de télé, pourquoi ?»« Attends, on m'a viré, mon pauvre, qu'est-ce que je te dis ?» J'ai plus rien. Et puis, j'ai continué de marcher et de porter la LPO avec des équipes admirables, salariés, bénévoles. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, quand je l'ai connue, il y avait... on va dire maximum 10 salariés et 3 000 membres. Aujourd'hui, on est 46 000 membres, 5 000 bénévoles et 400 salariés. On est la première association naturaliste de France. On se bat sur tous les fronts de la biodiversité, pas seulement des oiseaux. Et c'est ma passion, c'est une grande fierté. Et puis, c'est surtout beaucoup d'affection. Je crois que dans la vie, il faut faire les choses avec chaleur. Et je me retrouve avec des gens que j'aime et qui, je crois, m'aiment aussi.
Alors, si vous avez été honteusement viré de la télévision, vous avez été presque viré aussi de l'armée durant votre service militaire. Et pour quelle raison, Alain Bougrain-du-Bourg ?
Je vais faire court. Je vois que vous avez bien lu. Il faut continuer de marcher. En vérité, j'étais passionné de serpents. Et je me suis retrouvé au ministère des armées pendant mes classes. Et là, dans une salle, j'ai amené un sac avec des couleuvres à collier, des vipères à spic, des couleuvres vertes et jaunes, etc. Et j'étais en train de regarder les serpents dans ce bureau où j'étais tout seul quand un gradé est rentré. Et il m'a vu et là, c'était des hurlements. J'ai été embarqué immédiatement. Le ton a monté, je l'ai fait courte, mais je me suis retrouvé à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce avec 33% d'invalidité mentale. Et on a considéré, ce qui était un peu douloureux pour moi, que même si la France était en guerre, on ne ferait pas appel à mes compétences. Bon, ce qui n'est pas ma nature, j'aime bien me battre. J'aurais pas laissé mon pays comme ça.
Il faut sauver le soldat voilà. Bougrain-du-Bourg.
Complètement.
Alors, Alain, soyons aussi moins rigolards, parce qu'il y a tout de même des sujets très graves. Il y a eu la COP21 où effectivement il y a une vraie prise de conscience mondiale par rapport à ce terrible réchauffement climatique qui menace les équilibres naturels, qui menace aussi nos vies humaines, on l'oublie un peu trop.
Alors le problème c'est que, je m'en réjouis, on a pris conscience de la question climatique où on sait qu'à 2 degrés près, on remet en cause vraiment des choses fondamentales. Ce n'est pas simplement la montée des eaux ou l'accélération des événements climatiques, c'est vraiment les méthodes de culture, etc. Mais curieusement, on voit bien que la biodiversité est également très gravement impactée en ce début du XXIe siècle, sans être trop long. Aujourd'hui, au moment où on parle tous les deux, il y a une espèce de batracien sur 4 qui disparaît, une espèce de batracien sur 3, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8. Or, la biodiversité nous est indispensable. 40% de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la nature. Ces services, c'est par exemple la pollinisation des abeilles, qui représente 30% de la production agroalimentaire. On ne pourra pas s'exonérer du vivant qui nous entoure. La Terre survivra à toutes ces difficultés, mais l'homme pas. Et curieusement, autant on a compris la question climatique et on agit, autant on n'a pas compris la question biodiversité et on ne sait pas comment agir, c'est beaucoup plus complexe.
Vous restez confiant ?
J'ai pas le droit de faire autrement. Mais il y a des moments où les bras tombent un peu. Je vois que pour cette période présidentielle, ça a l'air de bouger un peu dans les consciences. Même si les écologistes ne font pas de score, voire sont bouffés, on va dire, par les autres grands partis, ça fait rien, c'est une question qui commence à s'inscrire dans les questions sociétales. Et je crois beaucoup, beaucoup dans la prise de conscience de la société qui, elle, imposera à ceux qui nous dirigent de prendre en compte ces questions essentielles.
Alors, je me rappelle certaines scènes à la télévision où vous étiez molesté par des chasseurs. Oui. Vos rapports avec eux sont un petit peu plus sobres, un peu plus délicats maintenant ?
Non, il y a vraiment des gens qui ne respectent pas les droits et c'est scandaleux. Par exemple, dans les dernières difficultés que j'ai connues, quand je dis difficultés, je suis pudique parce que vous ne pouvez pas imaginer la violence qu'il y a, ces gens qui veulent ma mort, qui m'envoient des lettres terribles, etc. Bon, je demande tout simplement le respect du droit, notamment l'ortolan dans les Landes est un oiseau protégé par la loi, en déclin, et on continue de le capturer pour le plaisir, souvent de faire du fric, parce qu'il peut se vendre sous le manteau, plus de 100 euros pièce. Voilà, alors on parle de tradition, de trucs, de machin, en fait c'est du business, et tant que les chasseurs ne respecteront pas le droit, c'est inqualifiable. Et moi, j'attends que les chasseurs responsables montrent du doigt ceux qui sont coupables pour qu'enfin, on se comporte comme d'autres pays où il y a des relations. Mais il faut le savoir, en France, c'est le pays d'Europe où on chasse le plus d'espèces, au moins une soixantaine. La moyenne, c'est 30 espèces, parfois moins. Où les durées de chasse sont les plus longues, 7 mois sur 12, et où il y a le plus grand nombre de chasseurs. Donc il y a une pression énorme et moi je commence à en avoir marre d'entendre que les chasseurs sont les meilleurs écolos et que c'est en tuant qu'on va sauver le vivant.
Alors, pourtant les chasses sont réglementées.
En principe sont réglementées, mais on voit qu'il y a une pression énorme pour que la réglementation ne passe pas. Je vais vous donner un exemple, la dernière loi biodiversité qui est passée l'année dernière, j'ai voulu tout simplement qu'on interdise les chasses, les prélèvements de mammifères pendant la période de reproduction. Je pense notamment aux blaireaux qu'on va tuer dans leur terrier alors qu'il y a des petits qui vont agoniser pendant des jours et des jours parce qu'on a sorti les adultes. Attends, on n'est plus à l'âge féodal. Un peu de dignité, un peu... Bon, ben ça a été rejeté. C'est resté en l'état, on a le droit de le faire. L'usage de la glu qui capture n'importe quel oiseau, ça a été rejeté. C'est toujours en usage. Voilà, donc... C'est très difficile, il y a des réglementations, mais soit on n'arrive pas à ce qu'elles soient conformes à l'élémentaire, soit elles ne sont pas respectées. Voilà. Et donc il faut se battre, et je trouve ça désolant parce qu'on a autre chose à faire. Mon bonheur, c'est de partager cette belle nature avec le plus grand nombre, de faire de l'éducation à l'environnement, d'avoir des réserves qui n'appartiennent pas à la LPO ou à je ne sais quel écolo, mais qui appartiennent à la communauté, à nous tous. C'est notre bonheur d'avoir une si belle France préservée avec des espèces protégées.
C'était Alain Bougrain-Dubourg à l'instant à notre micro. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, qui était invité par l'association Lire en pays autunois à la 20e fête du livre d'Autun. C'était le 9 avril dernier. Nous marquons une nouvelle pause musicale. C'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et nous vous remercions d'être aussi fidèles et nombreux chaque mercredi pour suivre ce qui est en Bourgogne actuellement la seule heure littéraire sur les ondes. Bonne soirée et merci.
To give, I got it for always.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
J'espère que vous passez une agréable soirée à l'écoute de Radion. Votre émission littéraire vous propose ce soir un compte-rendu non exhaustif, bien sûr, de la 20e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 8 et 9 avril dernier. Sans plus tarder, je laisse la place à un chanteur de variété extrêmement populaire que vous connaissez toutes et tous. C'est Marcel Amont qui était présent à Autun, notamment au stand de l'Académie Alphonse Allais. Tout de suite, Marcel Amont au micro de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion.
Tous les petits-enfants qui ont un petit peu eu la chance d'aller, ne serait-ce qu'à l'école primaire, connaissent La Fontaine. C'est un monument national. Ça peut être depuis trois siècles. Depuis trois siècles. Il est au sommet de la littérature et de la poésie française. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours sur La Fontaine. Alors moi, je me suis amusé, comme le maître est inégalable et inégalé jusqu'à nouvel ordre, moi je me suis amusé à trouver d'autres chutes. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans La Fontaine, c'est pas qu'il se soit inspiré de Ésope ou de Tartempion, c'est surtout son style, sa poésie, sa drôlerie, c'est ça qui est intéressant. Mais il aurait trouvé telle chute au lieu de telle autre, ça aurait marché aussi bien. C'est le bonhomme qui était extraordinaire. Alors j'ai trouvé d'autres chutes. Par exemple, prenez le laboureur et ses enfants. Bon, ben, il y a une chute qui est connue de tous les petits écoliers de France et de Navarre. Moi, je dis, oui, mais le laboureur, il n'a rien dit. Ce qui fait que les enfants se sont enrichis. Ils ont vendu leur terrain à prix fort, etc. On peut toujours trouver une autre chute. Voilà.
Alors, il y a les bonobos. Alors, c'est amusant.
Ah oui, parce mais que ça, c'est autre chose. Là, c'est plus La Fontaine. Je me suis mis à écrire aussi. Il y a 25 fables de démarquer de La Fontaine avec une chute différente pour me marrer. Et après, je me suis amusé à écrire 25 fables de mon cru.
Alors, juste avant l'entretien, je vous disais qu'adolescent, je me souvenais vous avoir vu dans ce titre, le tam-tam des gorilles. Mais bien sûr, vous avez chanté combien, interprété combien de chansons ?
Ah, ça, j'en sais rien. J'ai pas le goût des statistiques. Même pas en ce qui concerne ma longue carrière. Non, tiens, en fait, ce serait intéressant que je me renseigne. Vous me donnez à réfléchir, là. Je ferai une statistique, je vous enverrai la réponse par lettre recommandée.
Bien, merci Marcel Amont. Alors, il paraît que lorsque vous aviez le trac dans votre loge, vous récitiez donc des fables de La Fontaine.
Non, pour me faire la voix, je dis des phrases, parmi lesquels les fables de La Fontaine, pourquoi pas. Il suffit simplement, pour clarifier et tonifier la voix, il suffit de dire à haute voix des textes. Ça peut être du La Fontaine. Je sais des tas de fables de La Fontaine. Tous les petits-enfants connaissent le corbeau et le renard, le loup et l'agneau. Moi, ma préférée, c'était, parmi toutes ces fables, dont il y avait les animaux malades de la peste. Je le sais toujours. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, etc. Et ça finit, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Tout le monde connaît ça, bien sûr.
Alors Marcel Amont, vous avez créé quelques chansons très populaires.
Heureusement pour moi, autrement vous ne seriez pas là. En train de m'interviewer, vous diriez qui c'est le monsieur avec des cheveux blancs là-bas.
Mais vous parlez le béarnais, le gascon.
Pourquoi mais ? Et ?
Et ?
Oui, mon père et ma mère étaient des petits paysans de la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis bon, la vie était difficile, ils sont venus travailler à la ville, ils sont devenus employés, ils ont eu un enfant, ma pomme. Je suis un peu allé à l'école. J'ai eu des parents merveilleux qui m'ont donné tout ce qu'ils n'avaient pas. Et entre eux, tout en parlant français, évidemment, ils avaient appris le français à l'école, comme beaucoup d'Alsaciens, de Corses, de Basques, etc., etc., de Bretons. Ils avaient appris le français, ils le parlaient très bien, avec un accent à couper au couteau. Et ils parlaient entre eux toujours béarnais, ce qui fait qu'à force les 20 premières années de ma vie où j'ai vécu avec eux, à force de les entendre, mais cette langue, puisque c'est une langue et non pas un patois, bon, je la parle couramment, oui, je l'écris même.
Revenons un peu sur votre carrière de chanteur. Vous en êtes très, très heureux, très bah, complètement satisfait.
Bien sûr, comme si j'avais été instituteur ou télégraphiste aussi.
Mais est-ce que vous auriez aimé exercer un autre métier ?
Oui, mais lequel, j'en sais rien. J'ai commencé, après avoir eu la chance de faire, comme on disait à l'époque, mes humanités, je me destinais plus ou moins distraitement à l'enseignement. Et quitte à être enseignant, je me suis dit, bon, je vais être professeur d'éducation physique. Puis je suis tombé amoureux des métiers du spectacle. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique à Bordeaux. J'ai joué les valets de Molière. Et puis depuis, je n'ai fait qu'un seul et même métier, qui est celui de varié, hein, c'est-à-dire chanteur, animateur, comédien. Voilà, c'est un métier multiple. Et donc, je ne vois pas ce que je pourrais maintenant, à 88 ans, ce que je pourrais faire de plus intelligent, enfin, qui me donne autant de plaisir, et que qu'est-ce que je sais faire d'autre maintenant ? Rien.
Écrire aussi. Écrire oui, toujours.
Moi, ça, c'est un violon dingue. Tout le monde a son petit violon dingue. Il y en a, c'est la peinture, d'autres, c'est les mots croisés. C'est, remarquez, ce n'est pas limitatif. Je pourrais peut-être me mettre à peindre à mon âge. Mais encore, faudrait-il déjà que j'apprenne à tenir un pinceau.
Marcel Amont, vous avez été intronisé à l'Académie Alphonse Allais en novembre 2016. C'était au restaurant cabaret La Crémaillère, place du Tertre, donc dans le 18e arrondissement de Paris. Alors, comment entre-t-on dans cette vénérable Académie Alphonse Allais ?
De la façon la plus simple. Il m'a été demandé si j'accepterais de faire partie de cette Académie. J'ai répondu oui, avec plaisir, et on m'a intronisé, et voilà. Point final.
Et c'est une académie alors qui se réunit régulièrement ?
Sympathique, vous pouvez créer une académie, vous, si vous voulez. On peut créer l'académie de n'importe quoi et de tout. Mais enfin, Alphonse Allais, c'était pas un grand écrivain. C'était un type plaisant, un petit peu en décalage avec son époque. Et cette académie a été créée. C'est pas fait de gens qui se prennent au sérieux. C'est de gens qui... Voilà, surtout de gens qui pratique l'humour d'une façon régulière. Et comme il semble que je corresponde au profil de l'académicien, ah oui, je suis académicien, de l'académicien, voilà, c'est tout. Je pourrais faire des commentaires pendant des heures, mais c'est pas la peine, je crois.
Je sens vous importuner encore trop longuement, Marcel Amont. Quelles sont les chanteuses et les chanteurs que vous appréciez aujourd'hui en 2017 ?
Oh, ben, y en a des paquets. Il y en a que j'aime pas, mais je garderai bien de vous le dire. Puis chacun ses goûts. Il y a un petit qui m'épate vraiment. Un petit belge, Stromae. Celui-là, il m'épate. Ça, je trouve ça formidable. Mais il y en a des tas d'autres que j'aime beaucoup. Puis avec mes enfants et mes petits-enfants, je suis un peu ça. Alors il y a des gens, des nouveaux qui arrivent. Eux, ils ont l'air emballés, moins. Vous savez, ça se jugera sur la durée, tout ça. Voilà.
C'était vraiment une ambiance chaleureuse, confortable, qui régnait dans la salle de l'Hexagone les 8 et 9 avril derniers pour la 20e fête du livre d'Autun. Je vous rappelle qu'en 2006, c'est plus de 4000 livres qui ont été vendus. Et à l'instant, sur Radion, vous avez pu entendre un entretien avec le chanteur Marcel Amont. Eh bien, on marque un petit intermède musical et je vous donne rendez-vous juste après avec un entretien avec Paul Bertrand Bourguignon, qui signe deux romans, dont un intitulé « Les sycophantes ». Les sycophantes, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est un terme que l'on rencontre notamment dans une des nombreuses chansons de Georges Brassens. C'est le prochain reportage. Tout de suite, place à la musique. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h. Mamma mia, un tropic in discoteca.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
À toutes et à tous, très bonne soirée et merci de nous accueillir chez vous pour Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi sur Radion à partir de 21h, et ce depuis novembre 2010. Je rappelle que si vous avez raté le début de cette émission, vous pourrez la retrouver dès demain matin, disponible à l'écoute sur le site d'archives de Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Comme annoncé précédemment, voici tout de suite un entretien avec Paul Bertrand, rencontré à la 20e fête du livre d'Autun, le 8 avril dernier. Paul Bertrand, qui signe à la fois des contes, mais également des romans. Paul Bertrand, à notre micro.
Moi, j'essaie plutôt d'inventer des histoires, très peu de fées, rarement le diable, quelquefois, hein, il existe le diable, il faut le faire intervenir. Mais surtout, la vie d'autrefois m'émerveille, telle que je l'imagine, à travers les veillées. Nous sommes en Morvan, ici, vous savez, Lyon n'est plus trop le Morvan, un tout petit peu. Nous sommes du côté de Saulieu-Liernais, puisque c'est là que j'ancre souvent mes histoires, à la limite du Morvan et de l'Aussois. Et la veillée, je crois qu'elle a survécu jusque dans l'entre-deux-guerres. En tout cas, c'est typique du temps qui s'achève avec la guerre de 14. Et les gens, par économie, se réunissaient, parlaient naturellement, se réunissaient pour épargner la chandelle et puis le bois. Et on quittait sa maison en couvrant le feu les braises de cendres et on le faisait repartir quand on rentrait. Et alors on parlait. Et il y avait des histoires toutes faites, bien entendu, mais il y avait aussi ce qui était arrivé à un tel ou un tel. Et ça, j'imagine que ça devait être intéressant.
Alors parlons un peu de vos œuvres littéraires, Paul Bertrand. Il y a ce roman tout récent.
Oui.
Alors, les sycophantes.
Alors, figurez-vous que deux ou trois, vous savez, c'est une modeste contribution et modeste réputation, parce qu'évidemment, je donne tout, je n'ai pas de droit d'auteur, je donne tout à une association, et il y a donc très peu de publicité. Or, j'ai eu deux clients qui m'ont dit « Oh, les sycophantes ! Mais c'est un mot qu'a employé Georges Brassens dans... » Alors, j'ai oublié le titre de son... Alors, le mot sycophante est un mot grec qui désigne les dénonciateurs, premièrement au sens positif, puisque dans Athènes, la figue était un fruit tellement important qu'il était interdit de le vendre à l'étranger. Et donc, le sycophante, ça veut dire celui qui parle de la figue. C'est celui qui dénonce celui qui a fait cette faute de vendre. Et vous imaginez bien qu'à partir du moment où on le récompensait, il y a eu des dénonciateurs de gens qui n'avaient jamais vendu à l'étranger. Donc le sycophante a pris au sens moderne le sens des dénonciateurs, mais au sens péjoratif. Voilà. Et moi, j'ai repris quelque chose qui avait paru dans les journaux autrefois, déjà longtemps, l'histoire d'un homme qui a été condamné de pédophilie et qui a été condamné à 10 ans. Il était innocent. Et alors mon histoire, c'est un journaliste comme vous qui est chargé de des affaires judiciaires et qui assiste et qui sent que c'est faux, qu'il n'y a personne pour l'aider et qui est victime de quelqu'un de haut placé. Et par conséquent, il est emprisonné. Alors, il va rencontrer par hasard, le hasard quelquefois fait bien les choses, un ancien professeur de cet homme qui est emprisonné. Et il va faire tous ses efforts avec lui pour essayer de le visiter en prison déjà, pour essayer de trouver des témoignages qui prouvent qu'il est innocent. Voilà, je ne vous dis pas comment ça se termine.
Alors, revenons un petit peu sur vos contes. Donc, je rappelle le titre de votre roman, hein, Les Sycophantes. C'est aux éditions de La Cassine. Comment peut-on se le procurer?
Alors, bon, vous savez, il y a très peu de libraires. Il y a le libraire d'Autun et le libraire, celui de Semur, on doit en avoir un exemplaire ou deux. Il n'a pas dû s'affoler beaucoup sur la commande. Mais à Saulieu, on peut, voilà. Mais sinon, on vous demande mes coordonnées, à vous.
Très bien, et je les transmettrai.
Voilà,
vous
voilà.
Animez aussi un blog absolument remarquable.
Ah, que vous êtes gentil.
Je le dis, j'aimerais d'ailleurs que vous en donniez peut-être le titre.
Oh.
Alors, il est remarquable, très régulièrement, vous rendez des hommages à des poètes.
Oui,
il est question aussi de culture chrétienne.
Oui,
c'est un puits de culture, enfin, c'est un ravissement, et c'est vraiment un grand bonheur de vous lire à travers ce blog. Et je voudrais partager les références de ce blog avec les auditrices et auditeurs de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion.
C'est gentil. Alors, c'est tout simplement...
C'est très sincère.
C'est très gentil. Paul-de-Bourgogne. Le tiret simple du 6. Hein, voilà. Voilà. Puis, Overblog. Mais je crois qu'il suffit de mettre Paul de Bourgogne sur son ordinateur.
À partir du moteur de recherche.
Oui, voilà. À partir du moteur de recherche. Vous avez le vocabulaire adéquat qui me manque.
Puisqu'on parle de vocabulaire et notre entretien a commencé par cela, vous faisiez le constat terrible de l'appauvrissement de notre langue. Vous croyez que c'est inéluctable ?
Moi, j'espère que non. J'espère que on va faire marche arrière. Et pour ça, on va donner aux instituteurs l'autorisation de faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire d'enseigner la belle langue et la grammaire.
Mais je ne voudrais pas non plus être déplaisant à l'égard du corps enseignant. Ne pensez-vous pas, Paul Bertrand, qu'il y a des enseignants qui maltraitent la langue aussi devant leurs élèves ?
Mais peut-être bien. C'est vrai que moi je n'en sais
plus. Qui ne l'illustre pas comme il le devrait.
Peut-être bien. Et vous devez le savoir, ça. Et puis, je dois... Ah, vous voyez, mes sycophantes mettent en scène un journaliste dont je dis c'est l'honneur du journalisme. Eh bien, je dirais un peu la même chose de vous. Vous êtes l'honneur des... comment on vous appelle ? Des radios...
Radio locale.
Radio locale, oui. À cause de l'intérêt, je vous vois, moi je ne vais pas à tous les salons du livre, mais partout où je suis allée, je vous ai vu. Et je trouve ça merveilleux, parce que vous prenez sur votre temps.
Merci Paul Bertrand. Oui, je prends sur mon temps, et c'est vrai que c'est une émission de résistance, cette émission Wagon Livre, qui existe depuis novembre 2010, et qui, c'est pas pour faire le malin, est tout de même actuellement en Bourgogne, la seule heure littéraire, bientôt 300 émissions au mois de juin prochain. Et c'est une émission de résistance. Et tout comme vous, c'est aussi faire vivre le patrimoine écrit, c'est aller à la rencontre, et c'est une émission de partage, et c'est essentiel.
Oui.
C'est le sens de mes déplacements et de l'enthousiasme qui me donne cette énergie pour continuer cette émission, et c'est essentiel. Ça donne un sens à ma vie, me semble-t-il. Comme vous, l'écriture donne un sens à votre vie.
Et vous voyez, tout à l'heure, bien avant notre émission, je vous félicitais du mot « radion » et que je trouve infiniment beau. C'est ce qu'on appelle en grammaire un mot valise, puisqu'il associe radio et ion. Et puis, vous savez, le mot, quand on dit les iconets, ben oui, c'est vrai, je ne me rappelle plus en latin quelle est l'origine de ion, sans doute Icarona ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, ion, d'abord avec le iode, bon, ça prête au rêve. Vous avez fait, là, vous avez un très beau titre.
Écoutez, je pense que le directeur de radio n'appréciera cette remarque encourageante. Pour ma part, donc, je rappelle le titre de votre roman, Les Sycophantes, donc sous le nom de Pauline Barroyer, qui est votre nom de plume.
Oui.
Votre nom d'état civil, c'est Paul Bertrand.
Oui.
Ou Paul de Bourgogne.
Oui.
Pour trouver le blog que vous animez remarquablement. Et puis, il y a les...
Alors, il y a un deuxième roman.
Alors, parlons-en.
Oui. Celui-là, bon, il est un petit peu plus ancien, il doit avoir 3 ans, il y a 3, 4 ans, je ne sais plus, bon, je ne vais pas chercher. Je l'ai appelé Délices de cette belle fleur de France et des illusions. Et j'ai imaginé toute une histoire dans les années 50, quand la campagne est en train de changer, mais elle est encore très proche de ce qu'elle était depuis le début du siècle, du 20e siècle. Et alors, j'ai imaginé un officier de cavalerie qui arrive en retraite dans le château, il est noble, dans le château de sa famille, et sa femme qui est, je pense, de souche parisienne, puisque je lui ai inventé une tente qui tient un salon à Paris, qui ne s'y plaît pas parce qu'il y fait froid. Les châteaux en hiver sont inhabitables, invivables. Et donc lui... ne peut pas renoncer au bien de ses ancêtres et puis à son pays, à son château, à sa campagne, à son petit monde. Voilà, et toutes les difficultés viennent de là. Mais dans mes romans, il y a toujours Il y a toujours des choses tristes, on n'est pas dans Bisounours. Mais il y a toujours des échappées dans un petit bois, dans des petits bois des environs, dans cette campagne. Oui, on entend les oiseaux ici, voilà. Ça, c'est la beauté du monde. Et puis, il y a toujours quelque chose pour le vin de Bourgogne. Je bois très peu, mais j'ai toujours entendu parler des vins de Meursault, des vins de, je sais pas, de Moret-Saint-Denis, etc., comme des grandes merveilles du monde.
Alors, Mercuré,
enfin, Mercuré, c'est déjà un petit peu, mais c'est déjà très beau. Plaise à Dieu que tout le monde puisse boire du Mercuré toute sa vie.
C'est très noir.
Oui, c'est ça. Et puis voilà. Et puis Savigny, et puis Pipone, et puis enfin bon, bref.
Alors,
voilà.
on va terminer cet échange en rappelant simplement, comme chez Rabelais, que l'invitation à boire est aussi une invitation à lire.
Oh, que c'est bien, que c'est bien dit. Vous voyez qu'il a de la culture, notre journaliste, il en a beaucoup.
Paul Bertrand, merci beaucoup d'avoir accepté ce court entretien à l'occasion du 20e anniversaire de la fête du livre d'Autun.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous, c'est très sympa.
If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with the pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me
you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made.
Décidément, le temps passe très vite sur Radion, puisque notre émission touche pratiquement à sa fin. C'était donc ce soir la deuxième partie du compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 8 et 9 avril dernier. Vous avez pu entendre ce soir à notre micro Paul Bertrand pour son roman Les Sycophantes, le chanteur Marcel Hamon, le président de la Ligue de protection des oiseaux Alain Bougrain-Dubourg et le journaliste à Europe 1 Thierry Geoffretin pour son Mozart pour les nuls. Alors bien sûr, en quelques clics, c'est très facile et pratique, vous pouvez retrouver les références des ouvrages dont il a été question ce soir sur le www.yannickpetit.fr. Je rappelle aussi que sur le site d'archives de Wagon Livre, vous avez le programme des émissions à venir, votre émission littéraire chaque mercredi à 21h sur Radion. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 10 mai. Nous poursuivrons ce compte-rendu de la 20e fête du livre d'Autun avec d'autres rencontres, puisque, comme vous le savez, plus de 120 auteurs étaient présents à la fête du livre d'Autun. Et nous avons réalisé un entretien avec Bernard Thomasson. Bernard Thomasson, vous le connaissez peut-être parce qu'il est journaliste à France Info, il est romancier, il vient de sortir un nouveau roman et nous aurons aussi l'occasion de parler avec lui de gastronomie et de son parcours. Nous avons également rencontré le poète et éditeur de poètes Bruno Doucet qui a créé les éditions Bruno Doucet et qui est actuellement sans doute une des plus grandes maisons de poésie francophone. Et puis nous aurons le plaisir et l'opportunité, les deux sont étroitement liés, de revenir sur la personnalité alors d'une aviatrice sans doute trop méconnue. Elle s'appelle Adrienne Bolland. Adrienne Bolland qui a traversé la cordillère des Andes à bord d'un avion en 1921. On reviendra sur cette personnalité exceptionnelle, cette aviatrice hors norme, grâce à notre invité Colline Berry, que nous avons rencontré donc à Autun. Colline Berry qui signe un récit sur cette aviatrice intitulé Adrienne Bolland ou les ailes de la liberté. Merci à toutes et à tous de nous avoir une fois de plus été fidèles pour ce numéro de Wagon Livre. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne nuit à l'écoute des programmes de Radion. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.